Vous écoutez, on lit pour vous.
Ces objets écolos qu'on surconsomme. Un texte de Florence Dancause paru le 14 avril 2024 dans La Presse. Combien de bouteilles d'eau, de sacs réutilisables ou d'accessoires pour le lunch traînent chez vous? Beaucoup? Vous n'êtes pas les seuls. Ces objets, vendus comme étant plus écologiques que leurs pendants en plastique, s'accumulent souvent dans nos tiroirs. Pourquoi surconsomme-t-on des objets censés nous durer pour la vie? Bouteilles d'eau réutilisables. L'époque des bouteilles d'eau en plastique est presque révolue. De nombreuses personnes possèdent une bouteille qu'elles traînent un peu partout. Et l'habitude est bien ancrée. En 2021, 9 ménages canadiens sur 10 comptaient au moins un membre qui utilisait sa propre bouteille d'eau, selon Statistique Canada. Les entreprises ont remarqué l'engouement pour ces versions réutilisables, dont la dernière coqueluche des adeptes des bouteilles d'eau et de tasses, Stanley. Son modèle Quencher a été vendu à plus de 10 millions d'exemplaires, et les revenus de l'entreprise sont passés de 73 millions US en 2019 à 750 millions US en 2023, selon une projection de CNBC. Mais comment se retenir devant de nouvelles couleurs, de nouveaux formats et modèles de bouteilles qui font leur apparition presque chaque semaine? Une seule bouteille pourrait faire l'affaire, mais on est constamment sollicité, affirme Amélie Guévremont, professeure titulaire au département de marketing de l'ESG UQAM. Il y a toujours des envies de consommation. Une bouteille d'eau, ce n'est pas grave d'en acheter une. C'est de ne pas la garder et d'en acheter d'autres qui est grave, explique Mélissa de la Fontaine, cofondatrice de la coopérative Incita et conseillère et animatrice Mode de vie zéro déchet. Selon une étude de Cantis, commandée par Nestlé en 2010, une bouteille en aluminium neuve devrait être utilisée de 10 à 20 fois pour compenser son impact environnemental contre celui d'une bouteille en plastique, à usage unique, commercialisé comme durable. On sous-estime souvent les ressources nécessaires à la fabrication de l'objet et son cycle de vie. Les bouteilles réutilisables en aluminium, en plastique et en acier produisent environ 1,5 kg d'équivalent de dioxyde de carbone, selon l'étude de Cantis et Nestlé. La bouteille en plastique, à usage unique, émet quant à elle un peu moins de 0,15 kg d'équivalent de dioxyde de carbone. L'objet réutilisable a une plus grosse empreinte environnementale qu'un objet à usage unique. Il va devenir compétitif au moment où il va être utilisé sur plusieurs années, explique Mélissa de la Fontaine. Accessoires pour le lunch. Paille en inox, sac de collation réutilisable, contenant pour le lunch de tous les formats et designs possibles. Les accessoires pour l'heure du midi pullulent dans les boutiques. Ces objets sont valorisés alors qu'on nous dit de réduire nos déchets, notamment les emballages individuels qui règnent dans les rayons de collation. Alexandra Perrault se rappelle qu'à ses débuts dans le mode de vie zéro déchet, elle avait acheté plusieurs de ces objets, notamment pour la cuisine et le lunch, qui se sont avérés finalement inutiles. J'avais acheté des pailles réutilisables et j'étais toute fière de les montrer, mais au bout du compte, je les ai utilisées 4 fois, affirme la présidente du mouvement Zéro Déchet Longueuil. En plus, j'avais déjà des pailles à la maison, donc ça crée un autre type de déchet. J'ai des sacs réutilisables de type Ziploc, mais je ne dirai pas aux gens de courir en acheter si tu ne sais pas si tu vas les utiliser, explique Mélissa de la Fontaine. La question est, vas-tu, pour de vrai, les utiliser et as-tu besoin d'avoir 14 versions de la même affaire? Certains accessoires ne contrebalancent même jamais leurs impacts sur l'environnement malgré le nombre d'utilisations. C'est le cas des pailles en bambou et des emballages en cire d'abeille. Une étude publiée en 2021 dans l'International Journal of Life Cycle Assessment a conclu que ceux-ci avaient une incidence supérieure à leurs équivalents en plastique, et même si on les utilise de nombreuses fois, en raison du lavage manuel requis après chaque utilisation. Sacs réutilisables, grands et petits, s'accumulent sûrement dans votre auto ou vos placards. Sans compter les sacs d'épicerie qu'on oublie parfois lorsqu'on est arrivé à destination, ce qui nous force à en racheter. Il y a des sacs avec des éditions spéciales, avec des dessins, par exemple, de designers ou d'artistes locaux. C'est vraiment joli, mais ça donne envie d'en consommer, justement, croit Amélie Guévremont. En plus d'être un accessoire mode, le sac réutilisable est devenu un incontournable pour le consommateur responsable qui ne devrait jamais magasiner sans lui, dit la professeure. Alexandra Perrault s'est laissée tenter, il y a quelques années, par des sacs pour le vrac, qui remplacent les petits sacs en plastique pour emballer les fruits et légumes à l'épicerie. Une sorte de leurre, selon elle, puisqu'elle n'utilisait pas plus les sacs en plastique que les sacs en vrac lors de ses courses. Un sac en coton, par exemple, devrait être utilisé au moins 7100 fois pour constituer une véritable solution de rechange écologique aux sacs en plastique classiques, selon une estimation de 2018 de l'Agence danoise de protection de l'environnement. En raison des grandes quantités d'énergie et d'eau nécessaires à sa production et de son effet sur la couche d'ozone. Les sacs en coton sont également difficiles à recycler, ce qui réduit leurs qualités environnementales. De 7 000 à 29 000, nombre de litres d'eau nécessaires pour faire pousser 1 kg de coton selon Fonds mondial pour la nature. Que faire? C'est difficile d'aller à contre-courant du marketing. Le marketing est très, très fort. C'est puissant, concède Alexandra Perrault, qui croit que le mouvement zéro déchet a peut-être été repris par des entreprises pour faire vendre de nouveaux objets. Mélissa de La Fontaine parle carrément de reformater son cerveau pour penser différemment. On doit prendre conscience tout d'abord de nos habitudes d'achat et de nos besoins, dit-elle. Et ensuite, on peut se demander si on a vraiment besoin du nouvel objet écologique à la mode. Alexandra Perrault propose de fouiller chez soi en premier pour voir si on n'a pas déjà quelque chose qui pourrait remplir la fonction souhaitée. Sinon, on peut emprunter l'objet convoité. On peut aussi regarder du côté de l'usager avant de lorgner du côté du neuf. Mais il ne faut pas viser la perfection, rappelle-t-elle. On y va un pas à la fois. C'était « Ces objets écolos qu'on surconsomme », un texte de Florence Dancause paru le 14 avril 2024 dans La Presse.
Y a-t-il de la vie sur une lune de Jupiter? La NASA dévoile sa sonde pour le découvrir. Un texte de Hugh Griffith de l'Agence France-Presse paru le 12 avril 2024 dans Le Devoir. Des extraterrestres barbotent-ils en secret sous la surface d'une lune glacée de Jupiter? La NASA a dévoilé le jeudi 11 avril 2024 une sonde interplanétaire destinée à découvrir ce qu'il en est. La sonde Clipper, d'une valeur de 5 milliards de dollars, doit partir en octobre à bord d'une fusée Falcon Heavy de SpaceX à destination d'Europe, l'une des dizaines de lunes de Jupiter, la plus grande planète du système solaire. L'appareil voyagera pendant plus de 5 ans et passera notamment par Mars avant d'entrer en orbite autour de Jupiter et Europe en 2031 si tout se passe comme prévu. L'une des questions fondamentales que la NASA veut comprendre est « Sommes-nous seuls dans le cosmos ?» explique à l'AFP Bob Pappalardo, scientifique de la mission. Si une preuve de vie était découverte, ce serait une avancée énorme pour comprendre à quel point la vie est répandue dans l'univers, ajoute-t-il. L'engin est pour le moment conservé dans une chambre stérile du Jet Propulsion Laboratory, JPL, de la NASA en Californie, accessible uniquement au personnel couvert de la tête aux pieds. Toutes les précautions sont prises pour que la sonde n'apporte aucun microbe terrien sur Europe. Une fois sa mission commencée, Clipper entamera une inspection détaillée de ce satellite de Jupiter d'une taille comparable à la Lune, que les scientifiques croient recouvert d'eau gelée. Nous avons des instruments comme des caméras, des spectromètres, un magnétomètre et un radar qui peuvent pénétrer la glace, rebondir sur l'eau liquide et revenir à la surface pour nous indiquer à quel point la glace est épaisse et où l'eau liquide se situe, poursuit M. Pappalardo. Les responsables de la mission n'espèrent pas trouver de petits hommes verts en train de barboter. En fait, ils ne recherchent pas forcément de signes de vie, seulement des conditions favorables à celle-ci. Les scientifiques savent que même par des climats extrêmes sur Terre, sous la calotte glaciaire, dans des milieux sans lumière, de petites formes de vie peuvent exister. Si les lunes, autour des planètes éloignées des étoiles, pouvaient héberger la vie, alors le nombre de possibilités dans le système solaire, dans l'univers, que la vie soit présente, augmente drastiquement, je pense, estime Jordan Evans, chef de projet pour la mission Europa Clipper. 100 000 radios du thorax. L'étude d'Europe ne sera toutefois pas aisée. Un puissant champ de radiation englobe le satellite naturel de Jupiter et il pourrait abîmer les instruments de Clipper, qui recevra l'équivalent de 100 000 radiographies du thorax à chaque boucle autour de son objectif. À cause de la distance, les données de la sonde mettront 45 minutes à arriver au poste de contrôle. Et malgré ces énormes panneaux solaires qui se déploieront une fois dans l'espace, il sera ardu de maintenir Clipper en service, selon M. Evans. Près de la Terre, il pourrait alimenter 20 maisons en continu, et près de Jupiter, seulement quelques ampoules et petits appareils du fait de l'éloignement de la planète vis-à-vis du Soleil, explique-t-il. La mission, dont la planification a commencé à la fin des années 1990, doit se terminer vers 2034, quand Clipper aura atteint la fin de sa durée de vie utile. La dernière étape de la sonde consistera à s'écraser sur une lune de Jupiter, déclare Tim Larson, chef adjoint du projet. Quand nous en aurons terminé avec la mission scientifique, la façon d'en finir est de s'écraser sur l'un des autres corps célestes du système jovien à disposition de l'appareil, conclut-il. Pour l'instant, la NASA prévoit de précipiter la sonde contre Ganymède, le plus gros satellite naturel de Jupiter, précise-t-il. C'était « Y a-t-il de la vie sur une lune de Jupiter ?» La NASA dévoile sa sonde pour le découvrir, un texte de Hugh Griffith de l'Agence France-Presse, paru le 12 avril 2024 dans Le Devoir.
Un exercice de réflexion s'impose face à tant de morts. Un texte de Joanne Liu, paru le 29 juillet 2023 dans La Presse. Dans l'histoire canadienne, il y a seulement deux autres événements qui ont rivalisé avec la COVID-19 pour la perte de vie canadienne. La Deuxième Guerre mondiale avec 45 000 morts et la virulente grippe espagnole 1918-1920 avec 50 000 morts. Aujourd'hui, nous comptons plus de 53 000 Canadiens décédés de la COVID-19. Et donc, juste pour cela, prendre le temps de se poser et de comprendre ce qui s'est passé est le minimum d'exercice de reddition de compte. Cette semaine, le British Medical Journal a publié une série d'articles écrits par une liste de 13 experts de divers domaines, entre autres ceux de la médecine, de la santé publique, des soins infirmiers, de la recherche du droit de l'humanitaire. Ces articles mettent en relief les points forts et les lacunes de la réponse du Canada à la pandémie dans différentes circonstances ou secteurs. Le point fort incontestable du Canada est la couverture vaccinale contre la COVID-19 de plus de 80 %. Quelques lacunes. Concernant la crise prévisible dans les foyers de soins de longue durée, la pandémie a seulement dévoilé au grand jour la fragilité de ces milieux. Pour rappel, quoique les résidents de ces foyers aient comptabilisé seulement 3 % des cas de COVID-19 en décembre 2021, ils représentaient 43 % des morts liées à cette dernière. Les trois grands contributeurs identifiés de cette crise sont l'incompréhension de la complexité du statut médical des résidents, le soutien inadéquat au personnel soignant en ce qui a trait à sa charge de travail, son salaire, sa protection, et le manque d'intégration de ces foyers dans les ministères des services sociaux et de la santé dans différentes provinces. Sur ces trois fronts, nous avons la capacité de changer la donne. De façon générale, à travers le pays, on observe un angle mort général pour communiquer clairement et répondre aux besoins différenciés de groupes vulnérables et marginalisés comme les groupes racialisés, les travailleurs migrants temporaires, les travailleurs de services essentiels, les communautés autochtones vivant dans les réserves. D'une part, les différences dans les messages de santé publique d'une province ou d'un territoire à l'autre ont été décriées et d'autre part, ont causé la confusion générale et ont créé un terreau fertile à la méfiance envers nos différentes autorités en santé publique. Une investigation nationale réclamée. Je suis un des co-auteurs de l'article sur la contribution du Canada sur l'équité vaccinale. Comme mentionné dans le passé, le Canada a beaucoup fait pour protéger les Canadiens en sécurisant différentes options vaccinales en développement. En début de crise pandémique, nous ne pouvions pas imaginer qu'il y aurait plusieurs candidats vaccinaux efficaces. Où le Canada a perdu des plumes sur son engagement international, c'est sur son partage très tardif du surplus de vaccins en stock et sa frilosité à soutenir une levée des brevets sur les innovations en temps de crise. Les experts de cette série d'articles demandent une investigation nationale sur la réponse à la COVID-19. Tous, citoyens et dirigeants, repoussent l'idée avec vigueur, voire avec passion. Je me permets de nuancer la demande. Je suis profondément convaincu que prendre le temps de comprendre ce qui nous est arrivé dans les trois dernières années vaut le coup pour le devoir de mémoire des gens perdus, pour nos vies professionnelles et personnelles mises en pause pour ces dizaines de mois consécutifs. Ce n'est pas un exercice à qui la faute, mais plutôt pour avoir une vue globale de la façon dont nous avons géré cette pandémie et faire l'inventaire des bonnes pratiques selon les différents contextes à travers nos provinces et territoires. Nous savons qu'au cours des trois dernières années, il y a des pratiques qui ont bien fonctionné à un moment X dans un contexte Y. Nous avons un trésor de pratiques sanitaires à décortiquer et à analyser au Canada. Faire la liste de toutes ces pratiques, avoir un cahier des charges des changements à apporter pour mieux se protéger collectivement, et puis passer à autre chose. Je sais, tout le monde veut passer à autre chose maintenant. Je ne vous blâme pas, moi aussi. Mais je n'ai pas envie de revoir de mon vivant mes proches mourir seuls ou en compagnie de cosmonautes anonymes. Nous nous souvenons qu'après la crise du SRAS, syndrome respiratoire aigu sévère de 2003, où 44 Canadiens ont perdu la vie, le Canada a fait une enquête nationale. À part la création de l'Agence de santé publique du Canada, la majorité des recommandations sont passées à l'AS. Et de tous les pays affectés par le SRAS, le Canada a été le moins performant avec la COVID-19. Tout ça pour dire que le jeu en vaudra la chandelle si cet exercice de réflexion pandémique vient avec des recommandations concrètes et actionnables que nos autorités s'engagent à mettre en œuvre. Sinon, ce serait un exercice de figure imposé beaucoup trop coûteux. C'était « Un exercice de réflexion s'impose face à tant de morts », un texte de Joanne Liu, paru le 29 juillet 2023 dans La Presse.
La nouvelle vie du pâtissier Dario Bivona. Une entrevue réalisée par Samuel Larochelle, paru le 20 juin 2023 dans le magazine Fugue. Tous les 10 ans, Dario Bivona change de vie. Après avoir évolué dans le milieu pharmaceutique jusqu'à 30 ans et en communication pendant la décennie suivante, le Québécois d'adoption a plongé tête première en pâtisserie. Sacré champion de la première saison de l'émission « Le meilleur pâtissier du Québec », version locale du phénomène « The Great British Baking Show », il vient de lancer son premier livre « Les desserts de Dario ». Que retiens-tu de ton expérience au meilleur pâtissier du Québec? Le côté humain de l'émission et surtout l'après-tournage. Je suis resté proche des juges, des animateurs et des autres participants. On a un groupe Facebook sur lequel on se parle presque tous les jours. On s'envoie des photos de nos gâteaux. Durant la promo de mon livre, je leur ai partagé des trucs sympathiques. Et quand je passe à la radio, j'essaie de nommer certaines compétences que m'ont transmis les autres participants. Comment décris-tu ta signature? J'ai une touche italienne. J'intègre souvent des alcools fins et des fruits dans mes desserts. J'ai un style assez rustique et j'aime qu'on puisse voir que mes créations ont été faites maison. Je cherche la simplicité en général. Trop souvent, la pâtisserie décourage les gens. Chez moi, j'ai des livres de pâtisserie super compliqués qui sont magnifiques à voir, mais dont je n'ai fait aucune recette. Je ne voulais pas offrir un livre de ce genre. De quelle façon la pâtisserie est-elle entrée dans ta vie? Très jeune, je vivais avec ma grand-mère et ma tante parce que mes parents travaillaient en Allemagne. J'ai commencé à observer ma grand-mère dans la cuisine. Quand mes parents sont rentrés en Italie, nous allions luncher chez ma grand-mère 2 ou 3 fois par semaine. J'aimais aussi passer des journées entières chez elle. Je l'aidais à faire des pâtes à la maison. Je la voyais préparer des sauces, des tartes et des gâteaux. J'ai commencé à expérimenter un peu avec elle. Puis, j'ai continué avec ma mère, qui a toujours dit qu'elle voulait que mon frère et moi soyons indépendants. Il y a 35 ans, ce n'était pas commun dans les familles italiennes. Si une famille était composée de filles et de garçons, c'était presque toujours les filles qui apprenaient à faire la cuisine et les gars ne faisaient rien dans la maison. Quand as-tu quitté l'Italie? J'ai d'abord participé à Erasmus, un programme d'échange étudiant en Europe, avec mon meilleur ami. On voulait aller en Espagne pour faire comme dans le film « L'auberge espagnole », mais on a été pris dans le nord de la France, en Champagne-Ardenne. À l'époque, je ne parlais pas un mot de français. Comme je voulais vivre une immersion totale, je suis resté là-bas durant les vacances de Noël. Un déclic s'est alors produit dans ma tête et j'ai commencé à parler en français. Après Erasmus, j'ai terminé mes études en Italie en un temps record et je suis reparti à Paris pour y faire une maîtrise en biologie biochimie. Pourquoi ne pas être resté là-bas? J'aimais la ville, mais pas trop les Parisiens. J'avais de bonnes connaissances, mais pas autant d'amis proches qu'en Italie. Je me sentais toujours comme l'étranger parmi les Français de souche. J'étais toujours l'Italien, des fois le Rital. Je savais que je ne ferais pas toute ma vie là-bas. Après ma maîtrise, j'ai songé à poursuivre mes études en Belgique, en Suisse ou au Québec. J'ai choisi de m'établir à Montréal pour faire une maîtrise en pharmacologie en 2006, à l'âge de 24 ans. Je pensais rester 3 ans maximum, mais je suis tombé en amour avec Montréal et les Québécois en général. l'accueil était totalement différent de ce que j'avais vécu à Paris. J'ai tissé des amitiés profondes. Je me suis senti tout de suite à la maison. L'émission couronne le meilleur pâtissier amateur du Québec, mais tu possèdes un immense bagage de connaissances. Te considères-tu comme un professionnel? Je ne me considérerai jamais professionnel pour la simple et bonne raison que c'est nécessaire pour moi d'avoir fait des études pour se définir ainsi. Je fais de la pâtisserie à un niveau plus poussé depuis seulement 2 ou 3 ans. Par exemple, avant l'émission, j'avais fait un Saint-Honoré une seule fois. En quoi ton livre se démarque-t-il des autres? Par son approche en crescendo, on part des recettes de base que j'invite les gens à maîtriser pour ensuite s'épanouir davantage en pâtisserie et essayer de nouvelles choses. Au début, ce sont des recettes que même les enfants pourraient faire avec nous. Puis, on se rend jusqu'à des recettes plus élaborées. Si on passe du début à la fin, on apprend des techniques. Le livre nourrit notre confiance. J'ai également intégré quelques recettes sans gluten, sans produits laitiers et sans noix pour qu'ils soient accessibles à tout le monde. Je trouve ça triste quand j'apporte un dessert quelque part et qu'une personne ne peut pas en manger à cause d'une allergie ou d'une intolérance. Quand tu testais tes recettes, est-ce que ton copain les goûtait toutes? On en a mangé beaucoup et ça commence à se voir. Heureusement, il aime beaucoup les pâtisseries, mais il essaie de ne pas en manger tout le temps. J'ai la chance d'avoir un copain qui travaille dans un grand bureau avec beaucoup de monde. Avant ma participation à l'émission, j'envoyais un gâteau de temps en temps pour que ses collègues en profitent. Durant l'émission, c'était un gâteau par jour. Quel métier occupes-tu en parallèle? À la base, je suis conseiller en communication et j'ai travaillé en recherche de financement pour le Souk de Montréal. Présentement, je suis dans une année de pause pour me concentrer sur le livre et de nouveaux projets liés à la pâtisserie. L'automne prochain, je vais offrir des ateliers de pâtisserie à l'Institut culturel italien. J'aimerais concocter un deuxième livre et je vais probablement offrir des conférences sur ma participation à l'émission, mon expérience d'immigrant et mes changements de carrière. C'était « La nouvelle vie du pâtissier Dario Bivona », une entrevue réalisée par Samuel Larochelle, parue le 20 juin 2023 dans le magazine Fugue.